15h37 à Boulevard. Il y a quelques éclaircies dans le ciel de Québec. On prévoit encore quelques averses. On a 17 degrés présentement à Québec. Le minimum est à 13 pour ce soir et cette nuit. Des nuages, des averses demain. Maximum de 17. Plus frais jeudi et vendredi. De la pluie jeudi, 9 degrés. Des nuages vendredi, 8 degrés. Et après ça, ben peut-être une superbe fin de semaine. Samedi, soleil maximum de 18. Et dimanche, soleil maximum de 19 sur les routes. Audrey.
Peut-être commencer par Henri IV Sud entre chemin Sainte-Foy et Quatre Bourgeois. La voie du centre est rouverte, la voie de droite est toujours bloquée. C'est le fameux véhicule lourd en panne là, du début du show.
Il est encore là?
Oui. Le remorquage est en cours, mais c'est ça. C'est un peu plus compliqué avec un véhicule lourd.
Hein?
Oui. Fait que ça crée encore des problèmes, vous comprendrez. Là, sur Henri IV direction Sud, ça commence à ralentir à partir de Wilfrid Amel jusqu'à l'entrée des ponts. Duplessis Sud, c'est de chemin Sainte-Foy au pont. Il y a des problèmes sur Charest direction Est à la hauteur de Robert Bourassa. Capitale direction Est, ça se passe entre Henri IV et Robert Bourassa. Direction... c'est quoi j'ai dit? Capitale direction Est. C'est ça, Capitale direction Est entre Henri IV et Robert Bourassa. Ouest entre Beau-Royal et Laurentienne. Merci pour votre aide, les chums.
Hey, ça fait plaisir, hein? On est toujours là. Oui, oui, oui. On n'est pas le genre à te laisser caler. Là. Non, non, du tout, du tout.
Quoi que ce soit, 88-971-1021 par texto.
C'est parce qu'on t'écoutait et t'étais tellement bien en ligne, on était persuadés que t'étais correct.
Que celle-là, je l'aurais.
Ah oui, oui, t'avais l'air en parfaite maîtrise de la situation. On disait, ah, pas besoin de nous autres, voyons donc. C'est une grande fille.
Oh, oui, oui.
Je regardais du coin de l'œil les télévisions en studio parce que le premier ministre du Canada, Mark Carney, s'adresse en direct de Washington à la population, puis c'est le premier son de cloche où il n'y a pas le gros Trump à côté pour dire comment ça a été. Qu'est-ce qu'il y a à dire jusqu'à maintenant? Parce que c'est en cours,
oui,
présentement.
Parce qu'il faut que vous sachiez qu'un peu plus tôt aujourd'hui, il y avait une rencontre avec Donald Trump. Il y avait la rencontre dans le bureau Oval. Ensuite de ça, il y avait une rencontre à huis clos entre les deux hommes. Et c'est ce bout-là qui est intéressant, je vous dirais, là, parce que ce qui s'est fait devant les médias, c'était quand même assez convenu, on s'en doutait. Ce que Mark Carney a dit jusqu'à maintenant, il dit qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés, qu'il y aura de nouvelles rencontres, entre autres quand le G7 va se tenir du côté du Canada, où ils vont se voir en personne. Il a confirmé qu'il y aurait un appel avec les premiers ministres des différentes provinces et territoires pour les tenir au courant de ce qui s'est jasé. Il a répété, entre autres, qu'on allait bâtir des infrastructures pour diversifier les marchés du côté du Canada. Ça veut dire à quel point on a peu confiance en le fait qu'on soit capable de construire une relation efficace et durable avec les États-Unis, avec Donald Trump à leur tête. Il a dit que, par contre, il pense qu'ils ont jeté de bonnes bases aujourd'hui, qu'ils ont eu une discussion des différents sujets géopolitiques, des enjeux qui impliquent les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis. Quand il y a eu des questions à savoir plus précisément c'était quoi, il est parti à rire en disant que ça reste des rencontres qui sont à huis clos, fait qu'on a refusé de donner des détails par rapport à tout ça, mais que les grands dossiers ont été abordés,
bon,
notamment l'industrie automobile. On continue à faire avancer ce dossier-là. On semble penser qu'il y a eu des progrès malgré le fait que c'est une situation complexe. Puis il a aussi dit qu'il avait été aucunement surpris par le peu d'ouverture de Donald Trump à laisser tomber les tarifs. Ça, c'est dans le moment où ça s'est produit pendant la présence dans le bureau Oval.
Moi, je suis juste content que le premier ministre du Canada se soit pas fait faire un Zelensky, là, qu'on appelle dans le milieu.
C'est la crainte de tout le monde.
C'est-à-dire un président puis un vice-président. Ah ouais! Ah ouais! Hey. Ah ouais, dis-le que t'aimes les États-Unis avant qu'on te sorte ici d'un grand coup de pied dans le cul.
La manière dont c'est fait, le bureau Oval n'est pas fait pour recevoir les médias comme tel. Tout le monde est là avec son micro-perche, il y a beaucoup, beaucoup de monde. C'est
ça
drôlement
crie, hein,
installé,
ouais.
Ça crie.
Méchant bordel.
Les journalistes sont pas mic'és, c'est vraiment pas le meilleur lieu pour faire ça. Mais ça, tu t'en rends compte juste quand la caméra zoom out. Mm. Quand elle zoom in, tu vois les deux qui sont assis. Puis là, dès que ça recule, puis là que je vois qu'il y a toute la troupe autour, dont le fameux J.D. Vance, qui est donc ben bon pour faire dérailler les conversations, je me suis dit, oh mon Dieu, vas-tu décider de prendre le spotlight pour lui? Il n'a pas l'air de détester ça, là.
Il y a un bout très drôle où Donald Trump donne un char de marde à Chrystia Freeland et à Justin Trudeau pendant que Mark Carney fait semblant qu'il n'écoute pas, là, à côté. Là. Oh ouais, la gang d'avant, moi, je les aimais pas, là. La fille, là, elle est pas bonne, elle est horrible. C'est ça qu'il a dit, elle est horrible. Elle a fait mal à l'entente, là. Il a quasiment mis tarif sur le dos, là.
Il l'avait
la
déjà
pauvre Chrystia Freeland.
Il faut savoir que Chrystia Freeland, c'est elle qui était en poste quand la CEUM avait été négociée il y a quelques années de ça. Puis,
C'est l'équivalent de je m'en vais à TV, mettons, en direct avec Donald Trump. Puis là, Trump, il me dit ouais, deux filles avec qui tu travailles sont pas bien bonnes. Hein? Audrey, tout le temps mêlée dans la circulation. Puis Véro, ça y arrive-tu de sourire des fois? Puis moi, je suis là.
Pour pas essayer de mettre le feu, parce qu'il faut.
Un beau malaise d'épais, là. On en reparlera tantôt avec la stratège politique Sandra Jean. Qui,
Sandra, comment tu l'appelais?
C'est pas Jean.
C'est OB.
C'est OB.
C'est correct.
T'étais vraiment proche.
C'est, oui, c'est pareil. C'était, écoute...
Il y a le même nombre de lettres.
Bien, toutes les lettres que j'ai utilisées sont dans l'alphabet.
Oui.
Tu vois, on s'approche tranquillement.
Il y a un lien.
Oui, c'est ça. Puis lui, c'est Johnny Leblond. Il me semble que c'est ça.
Hey, kids. Vous êtes prêts pour votre leçon de finance et fiscalité?
Je vous demande de vous arrêter.
Mais voici Alex Leblond.
Mes excuses d'abord à Sandra Aubé et ensuite à Alex Leblond. Salut, man!
Tu ris, mais te rappelles-tu que la première année qu'on s'est connus, tu pensais que je m'appelais Dave?
T'es pas sûr!
Mais voyons donc!
Véro, tu te rappelles pas de ça?
Vaguement.
La première année qu'on a travaillé ensemble...
C'est vrai que ça a duré un an de temps, t'as raison.
En 2015, là,
t'as raison.
Moi, j'étais là, puis je dérangeais personne. Puis à un moment donné, on avait eu un party de sondage à la Scala.
OK.
Avec la grosse poivrière.
Oui, la poivrière géante.
Oui!
Là, je faisais une niaiserie. Puis là, le lendemain, t'es arrivé à Véro, t'avais dit « Hey, il est drôle, Dave, hein, nouveau, là. » Ça faisait un an.
Ça faisait un an. Donc, c'était un peu nouveau, puis il s'appelait pas Dave.
Non, je m'appelais pas Dave.
Écoute, j'ai aucun souvenir de ça, mais je suis obligé de te dire que le profil fit.
Ouais. Je te confirme que c'est vrai.
Alex Leblond, planificateur financier, salut, man.
Yes, salut, vous autres.
Hey, là, j'avais très, très hâte à cette chronique-là parce que j'avais mal lu mes feuilles. Je pensais que c'était la chronique où tu allais nous dire comment devenir millionnaire. Mais finalement, c'est la chronique où tu vas nous dire pourquoi on n'est pas millionnaire.
Ouais, ben tu peux le voir des deux côtés. Ça dépend. C'est soit bien motivant ou vraiment un downer.
Il y a quelques prises de conscience là-dedans. Ta réflexion partait d'où, hein?
Ben, j'ai lu, je reviens de vacances il y a 3-4 semaines à peu près, puis j'ai lu beaucoup de... Tu sais, d'habitude, je m'intéresse surtout à la planification financière d'un point de vue mathématique. Là,
ouais.
Les stratégies, puis tout ça. Puis là, je suis plus dans un mode...
humain.
Ben, finance. Tu sais, il y a un gros aspect de la finance qui est la finance comportementale.
Ouais.
Puis je suis comme dans un trip de... OK, les gens qui accumulent de la richesse, ils se lèvent pas le matin millionnaires. Ça, c'est pas une fatalité. Il y a une raison pour laquelle il y en a qui accumulent puis il y en a qui réussissent pas à accumuler. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que le revenu est un facteur qui a très peu de poids là-dedans.
Alors que notre premier réflexe quand on pense à ces choses-là, c'est de dire, ben lui, il peut empiler, il gagne plus cher. C'est pas ça nécessairement. Là.
Vraiment pas. Ça a pas beaucoup d'incidence, le revenu.
C'est des comportements.
C'est des comportements. C'est pas combien d'argent j'ai dans les poches, c'est qu'est-ce que je fais avec cet argent-là. Puis il y a une étude. Connaissez-vous Dave Ramsey?
C'est-tu Alex Ramsey?
Non.
Non, c'est Dave?
Non, c'est vrai, Dave.
OK, c'est bon. Je pensais que t'essayais de me pogner.
Le gars, il est un peu hardcore, là, mais c'est un gars aux États-Unis. C'est un animateur de radio. Puis lui, dans le fond, le principe de l'émission, là, c'est que le monde appelle, puis il leur parle de leur problème avec l'argent, puis en gros, il les traite d'imbécile.
Ah! Oh! C'est le Doc Mayou de la finance.
Pour vrai,
okay,
là.
OK, c'est bon.
C'est un peu ça.
C'est toute la faute de leur mère.
Ouais. Non, c'est pas à cause de ta mère. Mais, tu sais, le gars donne un show, puis des fois, il t'intend sur certains trucs, mais il a comme. Il est à la tête d'une entreprise, puis ils ont fait la plus grosse étude qui a jamais été faite dans l'histoire sur les millionnaires. Ils ont fait des entrevues avec 10 000 millionnaires, aux États-Unis principalement, puis la question essentiellement, c'était. Pourquoi toi, t'es millionnaire, puis ton voisin l'est pas, ton beau-frère l'est pas? Fait que l'idée aujourd'hui, c'était de regarder, OK, c'est quoi les principaux takeaways de cette étude-là, puis qu'est-ce qui peut s'appliquer à vous pour, sans dire devenir millionnaire demain matin, mais se rendre tranquillement.
Mais ça donne un coup de pouce.
Ouais.
Là, les millionnaires, les 10 000 millionnaires, c'est pas des gens qui ont hérité, là?
Non, zéro. C'est des gens qui, sans dire, sont partis de zéro, là, parce que ça, c'est intéressant. Techniquement, t'sais, on part pas de zéro parce qu'on a gagné à la loterie de la vie. On est né au Canada, aux États-Unis. Fait que tu pars tout avec une certaine avance,
ouais,
là, mais
ouais.
C'est des gens qui ont pas...
C'est pas le tiers-monde,
hey, ouais,
mais c'est pas des gens riches non plus.
Mon père, c'est Bill Gates, c'est facile. Hein? C'est pas ça, là. C'est du monde qui ont bâti leur propre richesse.
Il y a des trucs intéressants là-dedans, puis il y a des comportements qui vont peut-être vous surprendre, parce que pour un millionnaire qui aime ça flasher avec un char de l'année, la plupart, c'est pas ça, là.
Exactement. Puis là, on revient, on referait pas la chronique « Ta retraite est dans ton driveway ».
Ton futur best-seller.
Mon futur best-seller.
Ouais,
mais
ouais.
Ça reste qu'un des principaux points, là, dans cette étude-là, ils ont demandé, une des questions, c'est « Hey, c'est quoi que tu conduis? » À mesure où tu aurais tendance à penser que le dude ou la fille qui est millionnaire,
Ça, là, ça confirme tellement quelque chose dont je me suis tout le temps douté. Là. Donne tes chiffres, sont tes cœurs.
Tu sais, parmi les 10 000 millionnaires qui ont été interviewés, là, les trois marques de véhicules les plus populaires, c'est Toyota, Honda et Ford.
Il n'y a pas de Cybertruck là-dedans. Là.
Non, il n'y a pas de Cybertruck. La première marque qu'on pourrait considérer comme étant de luxe là-dedans, là, c'est Lexus, qui arrive au 5e ou 6e rang. Puis tu sais, un Lexus, c'est un Camry avec du cuir dedans, ouais. Là, c'est pas si luxueux.
C'est bon, du luxe, entre guillemets. Là.
Voilà. C'est du luxe, mais c'est pas les chars où tu es obligé de vendre ta mère pour être capable de le payer non plus. Là.
Exactement. Fait que pas de... Pensez aux marques de luxe, mm-hmm. là, avec lesquelles on essaie de flasher.
Le très
des
haut
fois,
de gamme,
là. Il y en a pas là-dedans. C'est des chars qui sont presque pas du tout représentés dans ces 10 000 millionnaires-là. Essentiellement, 86% des véhicules de luxe, là, selon cette étude-là, sont conduits par des endettés. Fait qu'il y a, dans les véhicules qu'on considère de luxe, là, il y a 14% qui sont vraiment détenus par des millionnaires, puis le reste par des gens qui font juste accumuler un paiement.
Ça fesse parce que c'est pas juste le char que tu payes. Là. Les pneus coûtent plus cher, les réparations
les
coûtent plus cher, les assurances coûtent plus cher.
Ben exactement.
Fait que quand tu te dois le cul et que tu achètes un char de luxe, tu te donnes pas un bon service. Là.
Il y a une règle là-dedans qui a l'air intense. Là. Puis je dis pas que c'est une règle qui est un conseil de planification financière.
OK.
Mais parce que lui, c'est un autre intense. Là. Un gars qui s'appelle Sam Dogan. C'est un ancien banquier, puis lui, il est très, très impliqué dans tout ce qui est finances personnelles aux États-Unis. Puis lui, il dit, là, le char que tu peux te payer représente 10 % de ton salaire annuel.
Et qu'on est une gang à pas rentrer là-dedans. Là.
Fait que là, lui, il se fait... À un moment donné, j'ai vu un extrait de lui. Quelqu'un dit, hey, je comprends ta règle, mon Sam, mais moi, je fais 50 000 $ Fait que ça veut dire que je peux juste m'acheter un char à 5 000 $ Il a dit oui. Fait que, tu sais, il y a pas beaucoup de marge de manœuvre dans son interprétation.
Des fois, il faut en avoir un petit peu plus dans la vraie vie.
Ben, c'est ça. Dans la vraie vie, peut-être que c'est pas toujours applicable, mais l'idée, c'est de se dire, OK, si les millionnaires, ils n'en ont pas de paiement à 900 000 $ par mois ou de char qui coûte 50, 60, 70 000, qu'est-ce qui me porte à croire que moi, je peux me le permettre?
Hey, c'est intéressant.
L'idée, c'est si tu ne dépenses pas pour avoir l'air riche, tu vas peut-être pouvoir le devenir pour de vrai. T'sais.
J'ai quasiment le goût de rester dans la même traque puis de parler des maisons parce que c'est un peu le même constat chez les millionnaires. Ils ne restent pas tous dans des châteaux, là.
Oui, le premier constat, c'est 90% des millionnaires de cette étude-là, fait que les 10 000 millionnaires, 90% qui sont propriétaires de leur maison.
Okay.
Fait que ça a été, quand tu regardes leur actif net, là, avoir une maison, ça a été un facteur d'enrichissement. Ça, c'est clair, mm-hmm. Ça les a aidés. Maintenant, on regarde, all right, ils ont une maison, ils ont quatre murs. Ils sont dans quoi? T'sais? C'est quoi la valeur médiane des maisons? Ça veut dire que la moitié des maisons, là, ils valent moins de 500 000 $
Mon Dieu.
Il y a bien du monde qui rêverait d'être millionnaire, puis je te garantis que ces gens-là achèteraient pas une maison en bas de 500 000 dans une situation comme celle-là. Là.
J'ai l'impression qu'il y a tellement une question de perception, autant pour la voiture que pour la maison. Tu donnes une impression de réussite. Combien de fois vous allez vous promener dans un quartier avec de grosses maisons, puis tu portes un peu attention, puis tu te rends compte qu'en dedans, c'est vide. Là.
Mm. Ouais. Puis souvent, un vient avec l'autre, là, parce que tu as la belle maison, fait que tu veux garnir l'entrée en même temps.
Ouais.
Parce que
le char monde... rouillé, ça paraît mal. Hein?
Ben, c'est un peu ça.
Les millionnaires sont pas des employés?
La majorité, non. Puis ça, c'est sûr que c'est probablement un point où, disons, les critères à l'entrée sont les plus élevés. Là. La majorité des millionnaires qui ont été interviewés là-dedans possédaient leurs propres entreprises.
Fait que ça te prend un esprit d'entrepreneurship.
Ouais. Ça veut pas dire qu'ils ont toujours...
Tu ne seras jamais millionnaire, Denis.
Non, ni toi ni moi.
Ben, ça veut pas dire qu'ils ont toujours eu leur propre entreprise, mais ça a été un facteur vraiment décisif dans leur... Pas décisif, mais un facteur qui a aidé à l'accumulation de leur richesse.
Véro va devenir millionnaire parce qu'elle va partir son magasin de plantes
oui,
sous peu.
J'ai commencé, voulez-vous voir mes pouces, non?
Non, non, pas nécessairement. C'est son... quand elle va cette année de gérer du monde ici, à part une boutique qui va s'appeler « Je préfère les plantes ».
J'ai commencé, regardez son
cœur. Oh mon Dieu, elle fait ça chez Xero en plus.
Tu pourrais partir un Etsy.
Puis vendre mes plantes,
ouais. C'est vrai.
OK.
En tout cas.
Pourrait.
Ce serait la base
pas par
de ta
la
business.
Poste, ça.
Ouais, mais
tu disais qu'ils ne sont pas nécessairement partis comme propriétaires d'entreprise.
Pas nécessairement. Tu sais, il y a 88% des gens là-dedans qui, à un moment ou un autre, ont possédé leur entreprise. Mais ce qui est intéressant, c'est souvent tu associes, tu sais, on a tendance à associer fonder une entreprise ou partir en business avec contracter une dette importante puis vraiment mm-hmm. se mettre à risque à ce niveau-là. Mm-hmm. Tu vois, 90% d'entre eux n'ont jamais contracté de prêt dans leur entreprise. Ça, c'est un chiffre que j'ai vérifié et contre-vérifié parce que j'avais de la misère à y croire, là, mais ils ont vraiment bâti from scratch. Ils n'ont pas demandé une avance à la banque, ils n'ont pas demandé une avance à qui que ce soit. Ils l'ont vraiment bâti tranquillement, lentement, mais ils en sont devenus millionnaires avec ça. Puis il y a quelque chose de logique là-dedans. Dans mesure où, mettons que tu es un employé qui, dans 10 ans, tu te tannes de ton emploi, ben tu as peut-être ton 4 % de vacances, mais après ça, ça finit là. T'es. Si tu es quelqu'un qui a accumulé des actions dans une entreprise puis qui a accumulé de l'équité là-dedans, bien souvent, une business, là, ça se vend à ce qu'on appelle un facteur multiplicateur du revenu. Fait que mettons que la business génère 200 000 $ puis dans ton industrie, ça se vend 4 fois les revenus. Mmh. Bien, toi, tu vends ça 800 000 $. Fait que tu sais, d'un simple point de vue logique, toi, tu as été payé quand tu as perçu le revenu, puis tu es payé sur la même job 4 fois ou 3 fois ouais. ou 5 fois quand tu le revends. Fait que d'un point de vue accumulation de richesse, c'est super avantageux.
On est avec Alex Leblon, planificateur financier, qui nous explique pourquoi on ne sera jamais millionnaire. Là, j'ai hâte de t'entendre sur ce point-là parce que j'ai lu là-dessus en fin de semaine, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le point. La devise la plus importante pour les millionnaires, c'est des 10 piastres.
Ouais.
Pourquoi? C'est quoi cette affaire-là?
Ben, l'idée, là, c'est de dire il y a un millionnaire sur trois dans cette étude-là, là, qui n'a jamais fait un salaire de 100 000 $. Puis la majorité d'entre eux, là, ceux qui dépassaient le 100 000, ça tournait dans ces environs-là. Là. C'était pas 500 000, c'était, mettons, 112 000.
Ça fait mal, ça!
Fait que si le tiers des millionnaires ont jamais fait 100 000 $ ou plus, tu te dis, all right, comment ils ont fait pour accumuler autant d'actifs? Ben c'est, des fois, on appelle ça les dépenses du PayPass, là. Le 8 piastres à gauche, le 11
ben
piastres
oui.
à droite.
La petite dépense, pas grave, que tu prendras jamais le temps de comptabiliser à la fin du mois, fait que dans ta tête, c'est pas gros.
Uber Eats, eux autres, là, ils passent probablement pas leur année là-dessus. Là.
Ben, c'est drôle parce que quand je suis à l'université, j'en ai fait là, des livraisons Uber Eats.
Ouais.
C'est ça que je faisais. Parce que moi, je me suis écouté la radio, des podcasts dans mon auto. Puis,
Dave est à 2 km.
Ouais. J'avais bien du fun. Puis un constat que j'avais fait assez tôt, là, c'était que tu es pas mal plus souvent dans Vanier, dans Limoilou, que dans Cap-Rouge puis dans un gros quartier.
Hey, je te glisse ça au passage parce que c'est dans l'actualité. Audrey m'a envoyé ça tantôt. Dans un budget d'alimentation moyen, c'est rendu que 40 % de ce budget-là passe dans un restaurant. On a bien beau chialer que l'épicerie coûte cher puis tout ça, mais on se donne pas, on se rend pas un gros service. Là.
Hey, puis écoute, le marketing est tellement fort. Tu sais, moi, il a fallu que j'enlève les notifications Uber Eats, là, parce que, tu sais, à genre 5h55.
Juste au bon moment, là.
Non, mais ils te disent pas, hey, on a tel deal. T'as une notification, puis ça te dit, as-tu faim?
C'est terrible!
Oui, j'ai faim. En tout cas.
Hey, tu me connais bien, hein? Il est 6h, puis tu sais que j'ai faim. Ouais. Attends, Barnouche.
Mais tu sais, ça, c'était. On parle justement du petit 10 piastres à gauche, le 20 piastres à droite. Ça, c'est vraiment fou comme statistique. Là. 93 % des millionnaires utilisent encore les rabais et les circulaires, mettons, pour leur épicerie.
Mm.
Puis ils ont analysé leur budget de ces millionnaires-là versus les gens qui ne l'étaient pas. Un millionnaire, là, en moyenne, ça dépensait 568 piastres par mois pour son épicerie. Un non-millionnaire, ça dépensait 892 piastres. Fait que c'est 300 piastres de différence.
Écoute, ça me fait penser à des gens que je connais qui ont pris leur retraite très tôt avec des salaires respectables, mais tu sais, pas au-dessus de la moyenne. Puis ils ont réussi, leur maison était payée, leurs affaires étaient réglées, ils ont réussi à se bâtir le chalet qu'ils voulaient. Puis eux autres, là, à cette heure-là, le gars est sur appel, quand ça y tente, that's it, that's all. La clé, c'était ça. Pendant la première partie de leur vie, ils ont économisé le plus qu'ils pouvaient. C'est l'effort qu'ils ont décidé de faire pour commencer à profiter de la vie à 45 ans au lieu de commencer à 60 comme on rêve tous de le faire à peu près. Mais je suis obligé de te dire que ça marche.
Bien, ça marche. Il y a toujours l'argument que, tu sais, souvent les gens vont dire « Bien, regarde, j'aime bien mieux profiter de mes jeunes années. » Puis c'est vrai que tu peux te faire ramasser par la 801 tantôt en traversant la rue. Là.
Voilà.
C'est un risque qui existe. Puis si tu es en mode accumuler, bien, tu n'en auras pas profité beaucoup. Là. Mais mettons qu'on regarde les statistiques, là. Moi, en tant que planif, il faut que je t'amène à 95 ans.
Mm-hmm.
Fait que si tu te dis, hey, je fais certains sacrifices, puis je commence à en profiter vraiment à 40, 45 ans, bien, techniquement, tu as 50 ans pour en profiter. Là.
Mais il y a quand même quelque chose de conséquent par rapport à ce que tu dis et le cinquième point de l'étude sur les millionnaires qui sont capables de vivre avec une certaine dose de risque.
Exactement. C'est comme la suite logique à ce qu'on avait tantôt.
Ouais.
Généralement, les gens qui sont millionnaires, si on parlait de business partir une business, c'est pas facile. Il y a 80 % des business qui vont fermer dans les 5 premières années d'exploitation. Ça vient avec un risque significatif. Généralement, c'est des gens qui vont avoir fait beaucoup, beaucoup de revenus passifs dans leur placement. Ça se fait pas tout seul. Ça vient avec un risque significatif. Fait qu'essentiellement, là, la majorité des gens qui sont millionnaires, dans les 10 000 qui ont été interviewés pour cette étude-là, c'est en partie parce qu'ils ont été en mesure où ils ont accepté de prendre un risque que leurs voisins ou leurs collègues ne voulaient pas prendre.
Je trouve ça dur à gober, je trouve ça dur à avaler et dur à accepter, mais il y a quand même un fond de vérité là-dedans. La seule raison pour laquelle on n'est pas millionnaire autour de la table ou qu'on ne deviendra pas millionnaire autour de la table, c'est pas une question de salaire, c'est pas une question de revenus. C'est ce qu'on fait puis ce qu'on fait pas.
En fait, moi, le point qui est mon plus gros problème, c'est les petits maudits 10 piastres dont tu parlais. Là.
Hey, ben pour elle, quand on fait les budgets, là, tu sais, moi, je demande d'imprime trois mois de relevé. Ben, imprime PDF, ouais. Là, on n'est pas en 2002, là, mais imprime trois mois de relevé, mettons carte de crédit puis compte chèque, puis fais les moyennes pour les restaurants. Puis souvent, les gens, ils en reviennent pas parce que. Justement, c'est un café glacé à 4,99 ouais. Deux fois dans la semaine.
Là, on ne parle pas du souper au restaurant, c'est tous les petits à côté qui...
Hey, la fois que tu t'es pas fait de lunch, puis tu t'en vas chercher un sandwich avec un bout de salade, puis whoop, t'as un 20$ de partie.
Mais tu
là.
Te convaincs, là, t'es comme, ah, c'est vendredi, je le mérite, c'est pas grave, t'sais, c'est pas gros.
J'avais pas de lunch de toute manière, j'avais
ben
pas
oui,
le choix.
Ben oui, c'est ça, tu sais.
Puis le but, là, c'est vraiment pas de prêcher là-dedans. Là. Tu verrais mon relevé de tangerine, c'est un désastre aussi.
T'es pas mieux que nous autres.
Mais c'est d'amener une réflexion, par exemple.
Exact.
Puis d'arrêter de penser que les gens qui deviennent riches autour de vous autres parce qu'ils ont été plus chanceux que vous. C'est des fois des petites décisions qui ont changé le cours des choses.
Ben, c'est la conclusion. Ouais. Ultimement, là, t'as bien beau twister ça de la manière dont tu veux, là, les quatre autour de la table, on est dans la situation financière où on est aujourd'hui parce qu'on a décidé de l'être. S'il n'y a pas beaucoup de fatalité en planification financière. Puis oui, tu peux avoir été malade, puis il y a un certain pourcentage que, regarde, on s'en sauve pas. Mais dans la majorité des cas, là, la situation qu'on a aujourd'hui est la somme de nos décisions passées. Fait que ça, c'est comme le constat plate des fois. Le constat cool, c'est que si on s'est nous-mêmes mis dans cette situation-là, on peut nous-mêmes s'en sortir. Fait que justement, cette étude-là de regarder, hey, les gens autour de nous qui ont accumulé le plus de richesses, c'est quoi qu'ils ont fait eux autres? Bien, ça peut être un point de départ. Puis ce livre-là, il est disponible sur Amazon en passant.
Ah ouais?
Cherchez, je pense que c'est National Study of Millionaires. Je sais pas s'il est en français, là, mais c'est comme 130 pages. Puis c'est pas trop lourd. Tu sais, c'est pas des. Il explique pas des concepts d'optimisation fiscale. Puis
mais idéal pour se sentir coupable de dépenser après ça.
Ben, ouais. Moi, je vais le commander avec Uber Books. Il va arriver plus vite.
Bonne idée.
Le gars compris. Hein?
Ben, abonne-toi. Tu sauves 30% en plus.
Ah ben oui, évidemment. Puis je vais acheter d'autres livres. Fait que je vais rentrer dans mon.
Ben ouais. Ouais.
Merci, Alex Leblon.
Merci à vous autres.
Alex Leblon, planificateur financier. Il est 16h pile. Vous êtes à Boulevard 102.1. Dans les prochaines minutes, évidemment, on va faire le point sur une grosse journée de négociations nord-américaines entre le Canada et les États-Unis, alors que Mark Carney se retrouve à Washington.